cette station, shérif. Il suffit de couper le courant.
Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio.
Ne soyez pas si égocentrique.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête.
Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la dernière émission du mois de mars, puisqu'on est le dernier jour du mois de mars.
Et demain, c'est le 1er avril. On ne fait pas d'émission sur les poissons, non?
Non, on ne fait pas d'émission sur les poissons. Et vous venez d'entendre Edith, qui est présente dans le studio ce soir. La dernière fois, on l'avait en enregistrement, mais là, elle est devant moi. Et il y a aussi Claire-Lise.
Oui, et je ne suis pas en virtuel.
Elle n'est pas en virtuel. Alors bon, pour les auditeurs d'Évreux et de sa région, il y a des soucis. L'émission est diffusée, mais dans des conditions un peu particulières. Il y a des soucis d'émetteurs qui doivent normalement rapidement être solutionnés. Et donc, en fait, cette émission n'est pas disponible sur l'émetteur FM ce soir d'Évreux. Mais sur tous les autres moyens pour écouter la radio, Internet, la radio numérique, l'émetteur de Verneuil, tout ça, ça fonctionne. Donc on vous repassera l'émission dans la semaine pour ce Dévreux, le plus rapidement possible, dès que tout remarchera. Et on vous rappelle qu'on a plein de podcasts sur le site de la radio, principeactif.net. Donc on peut tout réécouter. Voilà. Pour commencer l'émission, je vais vous lire l'édito de la dernière chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. Abonnez-vous.
Qui l'a reçu dans sa boîte aux lettres.
Nous, on ne l'a pas reçu, Didier. Ce n'est pas juste.
J'ai eu une primeur, mais je l'ai reçu.
Gravigny avant Évreux.
Alors que mes deux coéquipières l'attendent impatiemment. Et donc, voilà, donc abonnez-vous, le formulaire d'abonnement est sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr. Voilà ce que dit Anne Savinel, qui est donc la présidente. 28 février 2026, deux mois à peine après le massacre perpétué par le régime iranien contre sa propre population, les premières bombes américaines et israéliennes s'abattent sur l'Iran. Ce nouveau déchaînement de violence ne saurait faire oublier le courage des manifestants et manifestantes. Toute génération confondue dans une mobilisation inédite, elle ils et elles ont crié leur colère contre leurs dirigeants dans tout le pays. Une incroyable détermination, une leçon de résistance face à une répression brutale, cruelle, inouïe, orchestrée par les gardiens de la Révolution. Toutes les familles iraniennes traumatisées, l'attaque israélo-américaine est une épreuve supplémentaire. Ces frappes touchent des centres de soins, des quartiers résidentiels, des lieux de vie, comme cette école primaire de filles à Minab, dans le sud de l'Iran, ciblée par ces frappes. Le guide suprême, Ali Khamenei, n'a pas survécu. Il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Quelques jours plus tard, son fils prend la relève. Les experts juridiques internationaux l'affirment, l'attaque américo-israélienne contre l'Iran a violé la Charte des Nations Unies. Nos analyses en cours indiquent que lors des hostilités qui ont suivi, les États-Unis, Israël et l'Iran ont commis des actes illégaux au regard du droit international. Ces États continuent à en commettre à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plus de 10 pays touchés. Le Moyen-Orient s'embrase et le conflit accentue la rupture de l'ordre mondial dans une volonté non dissimulée de provoquer l'effondrement de notre système et de ses mécanismes de protection de nos droits, de la paix et de la sécurité. La loi du plus fort balaie tout exercice diplomatique, se moque des efforts fournis par ceux et celles qui croient à l'intelligence de la concertation. Dans les pays du Golfe ciblés par l'Iran, ainsi qu'en Israël, les missiles iraniens atteignent des civils. Quant à la population palestinienne du territoire occupé, elle n'est quasiment pas protégée par le dispositif de défense israélien. Système antimissile, abri, réseau d'alerte, etc. Cette guerre sert aussi de prétexte à Israël pour renforcer les contrôles à Gaza, aggraver les blocages de l'aide humanitaire, les pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, ainsi que la hausse des prix. Au Liban, la riposte israélienne au tir du Hezbollah pro-iranien est terrifiante. Selon l'ONG Human Rights Watch, Israël y aurait utilisé du phosphore blanc. Des missiles frappent le sud du pays jusqu'à la plaine de la Beka ainsi qu'à Beyrouth. Les morts se comptent par centaines et des milliers de familles sont contraintes de fuir. À quand la fin de l'impunité des responsables de massacres, la fin de cycles infernaux qui permettent la répétition incessante des crimes. Donc voilà ce que dit Anne Savinel Barras, effectivement. C'est un résumé de ce qui se passe, et je crois qu'Edith, dans le courant de l'émission tout à l'heure,
j'en parlerai aussi.
Tu vas revenir sur Israël, ouais, etc., le Liban et voilà. Autres.
Oui, bon. Tout à fait.
Et moi, j'aurai l'occasion de dire quelques mots aussi à propos des États-Unis. Voilà.
On peut quand même dire qu'effectivement, il y a des exactions de la part des belligérants, en tout cas l'Iran, Israël et les États-Unis, qu'il y a des crimes de guerre qui ont été perpétrés par chacun de ces pays. Et que l'école, lors des premières frappes, l'école qui a frappé des petites filles et des jeunes filles iraniennes, ça a fait quand même 115 morts par un tir, a priori, américain.
Oui, voilà. Non, c'est sûr.
Personne ne se révolte par rapport à ça. Enfin, c'est quand même
La problématique, c'est que voilà, ce sont les civils qui piochent dans tous les sens. Quoi. Ouais. Il y a aussi un article sur une synagogue en Israël, et c'est un missile iranien. Donc tu te dis, il n'y a pas de raison à ce que ça arrive là. Alors, est-ce que c'est des armes
De toute façon, ils en sont venus maintenant à frapper sur, parce qu'au début, c'était des cibles militaires, ou les infrastructures où pouvait y avoir des terroristes ou des militaires. Maintenant, ils en sont quand même à détruire les universités, à détruire les écoles, à détruire les centres de santé. Enfin, c'est tout ce qui
fait la vie quotidienne, la vie des gens,
à la population de vivre, et ils sont en train de tout raser, quoi.
Juste un petit mot pour revenir sur les 115 jeunes filles qui sont mortes en Iran suite au bombardement. Effectivement, il y a un article d'ailleurs sur le site qui explique très bien, sur le site d'Amnesty.fr, et c'est parce que l'armée américaine a utilisé l'intelligence artificielle pour diriger les tirs, et l'intelligence artificielle, les fichiers n'avaient pas été remis à jour, et donc ils considéraient que cette école faisait encore partie d'un groupe des gardiens de la Révolution, alors que ce n'était plus le cas et que les bâtiments avaient été complètement séparés. Mais comme l'intelligence l'intelligence artificielle n'avait pas été remise à jour, eh ben, les données ont été envoyées aux bombardiers de bombarder l'école. Voilà.
Et peut-on aussi, les gens qui nous suivent depuis très longtemps, quand on a commencé à entendre parler de drones, quand on a commencé à entendre parler de guerre par personne, enfin par outil interposé, en se disant mais c'est qu'est-ce qui va se passer? Et là voilà, on en est dans des systèmes où l'humain n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'avoir les soldats qui
l'humain n'est pas là, mais les civils sont quand même victimes de part et d'autre. Hein,
c'est un système d'impunité quelque part, en disant bah oui mais attendez, c'est pas de notre faute. Là c'est l'intelligence artificielle qui nous a gouré. Donc non, faut arrêter quoi. Faut arrêter sur des façons de botter en touche et que effectivement les civils traînent.
Bien, donc on va continuer sur un sujet tout à fait local. Qui va vous parler de la fermeture de la Mala. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la Mala, Claire-Lise ?
Déjà, les personnes qui n'ont pas d'hébergement font habituellement appel au 115. Le 115, c'est géré dans le département par ISOS. C'est un appel d'urgence pour demander un hébergement d'urgence.
ISOS, c'est une association ?
Oui. Donc, c'est géré par ISOS au niveau du département. Il y a d'autres départements, c'est pas toujours les mêmes associations qui gèrent. Et donc, le 115, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, est saturé. En fait, pratiquement tous les 115 de France sont saturés sur les demandes d'hébergement d'urgence, que ce soit des personnes françaises qui ont des problèmes d'hébergement, mais aussi beaucoup de personnes étrangères, dont des demandeurs d'asile, parce qu'il n'y a pas assez de centres d'accueil pour les demandeurs d'asile qui doivent être pris en charge le temps de leur demande d'asile. Il n'y a pas assez de place dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, pour leur hébergement. Et donc, du coup, ces personnes, des fois, des familles avec des enfants, se retrouvent à aussi demander au 115. Il y a toutes les personnes qui ont eu leur procédure d'asile, mais l'asile a été rejeté. Normalement, ces personnes, maintenant, devraient, avec les nouvelles lois, accepter de repartir. Mais beaucoup, en fait, est arrivé en France après les périples que l'on sait, ils veulent rester. Et donc, quand leur demande d'asile est terminée, quand ils étaient dans des CADA, quand ils reçoivent la notification de la Cour nationale du droit d'asile qui dit « votre demande a été rejetée », 30 jours après, ils doivent sortir. Il faut savoir que les demandeurs d'asile qui sont dans des CADA, quand ils doivent sortir 30 jours après le rejet de leur demande d'asile, il n'y a pas de trêve hivernale. C'est-à-dire que comme c'est un flux tendu dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, eux doivent sortir même des fois en plein hiver. Et donc ils viennent re-engorger les services du 115. Et le 115, en France, il y a une loi qui dit on met les gens à l'abri pendant les mois d'hiver. Donc, du 1er novembre au 31 mars, il y a ce qu'on appelle la mise à l'abri, la Mala. Voilà,
c'est ça.
Mise à l'abri. Et donc, sur Évreux, la mise à l'abri, c'est aussi sur orientation du 115, c'est géré par une autre association, Accueil Service. Effectivement, il y a entre 45 et 50 personnes qui sont mises à l'abri à la Mala. Et il y a aussi des personnes qui bénéficient d'hébergement d'urgence pendant la période hivernale dans les hôtels sociaux, en fait les hôtels solidaires où il y a beaucoup de places qui sont réservées pour le 115. Toutes ces personnes, au 31 mars, donc demain, c'est pas une blague, demain 1er avril, malheureusement, de nombreuses personnes vont se retrouver sans hébergement. Puisque le 115 est saturé et les places qui sont ouvertes pour l'hiver ne sont pas reconduites sur la période d'été. Il y a une question aussi de budget. Et donc, du coup, beaucoup de personnes demain, des femmes, des enfants, parfois des hommes aussi, vont se retrouver à la rue. J'ai déjà une liste de plusieurs familles de 3-4 enfants et parfois des très jeunes enfants. On a une famille avec une maman dont le nourrisson a à peine un mois, qui vont se retrouver sans hébergement à partir de demain. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent héberger, alors c'est pas facile une famille nombreuse, mais des fois quand c'est juste une maman avec un enfant, c'est peut-être plus facile. Si vous connaissez des gens qui peuvent proposer des hébergements solidaires, faites-vous connaître auprès de la radio éventuellement, parce qu'on cherche des solutions, sachant que dans les personnes qui sont à la MALA, il y a aussi des personnes qui parfois sont en voie de régularisation et qui n'attendent que pouvoir être régularisées, ont des capacités pour travailler dans des métiers en tension, apprennent le français et pour s'intégrer. Et donc du coup, ce qu'il leur faut, c'est juste un toit pour s'abriter. C'est un des droits fondamentaux,
oui,
qui n'est pas forcément respecté en France. Et je pense aussi à tous les instituteurs qui parfois nous appellent, alors ils appellent Un Toit Sous la Main ou le CFED, pour nous signaler que leurs petits élèves ont passé la nuit à la rue et arrivent à l'école sans avoir pu déjeuner, sans avoir pu se laver, et connaissent le traumatisme de la rue. On en a déjà quelques-uns qui se sont manifestés en s'inquiétant, parce que les mamans s'inquiètent à l'avance, et c'est terrible, quoi. Donc malheureusement, puis il faut pas compter sur sur d'autres, parce que comme c'est une compétence du département, la municipalité dit que c'est pas de sa compétence.
Bien sûr.
Alors que parfois il y a des locaux vides qui pourraient servir d'abri, mais voilà, il n'y a pas la volonté de le faire. Donc du coup, toutes ces familles, vous allez sans doute les voir, sachant que le week-end, c'est pareil, y a un accueil-service à ce qu'on appelle la passagère, donc du coup, ils ouvrent un petit peu les week-ends durant la période d'hiver, mais pendant la période d'été, la passagère, elle est ouverte du lundi au vendredi. J'avais redemandé à une des personnes de l'accueil de me repréciser, mais en principe, les week-ends, ça sera à nouveau fermé. Ce qui fait que ces familles, quand elles peuvent aller au moins se laver le matin ou déjeuner, passer du temps à l'abri, au mois d'avril, des fois il fait beau, mais il fait pas toujours chaud, et donc ce sont des familles qui vont se retrouver dehors, vous allez les voir dans des abribus, vous allez les voir autour de la gare, et ces femmes qui sont, enfin ces femmes, ces enfants, ils sont quand même à la merci aussi d'agressions. Et donc c'est quand même dramatique de vivre le traumatisme de la rue, voilà.
Et si vous avez effectivement, si vous connaissez des gens ou si vous avez vous-même des solutions pour héberger des gens, même provisoirement, vous pouvez aussi nous adresser ces informations à notre adresse mail et on fera suivre. evreux@amnistyfrance.fr. evreux@amnistyfrance.fr. N'hésitez pas. Et puis, il y avait une autre chose qui m'avait traversé l'esprit, mais maintenant je ne vais plus m'en rappeler. Donc voilà, par rapport. Ah oui, c'est que bien évidemment le fait d'avoir un toit au niveau du droit international. C'est un droit humain fondamental.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais.
C'est ce que tu as dit.
Ouais.
C'est ce que tu as dit.
Et normalement, le Conseil d'État avait reprécisé en décembre 2022, je crois, c'était repassé au Conseil d'État, que normalement, quand les personnes n'ont plus de toit, il devrait y avoir le principe d'un hébergement d'urgence inconditionnel. Sauf que les services sont saturés, donc du coup, tout le monde se défausse un peu là-dessus et il n'y a pas d'effort de fait par rapport à la recherche de solutions. Par contre, il y a des intervenants sociaux de plein d'établissements d'accueil qui s'inquiètent et qui nous téléphonent en nous disant « j'ai cette famille qui va sortir, il n'y a pas de solution, on n'a pas légalement de solution, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et donc ils font appel à l'hébergement solidaire, c'est-à-dire l'hébergement solidaire et citoyen.
Ouais. Et ce que je voulais dire en complément du fait que d'avoir un toit, c'est un droit fondamental, ce que précise le droit international aussi, c'est que ce droit-là est tout à fait indépendant de la situation administrative de la personne considérée dans le pays.
C'est pour ça que j'ai dit inconditionnel.
Oui, c'est ça. Et que donc, effectivement, il n'y a pas du fait de dire « vous êtes entre guillemets », un mot qu'on n'aime pas du tout, « vous êtes entre guillemets en situation illégale », ne retire absolument pas le fait d'avoir le droit d'avoir un toit.
Voilà. Avant d'être des migrants, ce sont des êtres humains.
C'est ça.
Et des enfants.
Il faut toujours le rappeler quand même.
Et avant d'être des MNA, c'est des enfants. Avant d'être des OQTF, ce sont des personnes humaines.
Bien. Donc, il y avait un autre sujet, on va rester en France, il y avait un autre sujet, c'était Yves qui voulait vous en parler, la reconnaissance faciale appliquée par la police, si je ne me trompe pas, en France.
Eh bien, comme tu as tout dit, je vais m'arrêter là. Non, je vais vous raconter.
Juste deux titres.
Alors, ils sont arrivés, ils nous ont contrôlés direct, ils ont sorti des gros portables rectangulaires, ils les ont pointés vers nous et ils nous ont pris en photo. Ça, c'est le témoignage d'Ahmed, 18 ans, apprenti pâtissier, qui n'a même pas eu à présenter ses papiers. Sa seule photo a suffi à renseigner les policiers sur son identité. Un contrôle opéré en dehors de tout cadre légal. C'est par ce témoignage que le média d'investigation Disclose ouvre ses révélations. Comment les forces de police ont-elles pu recourir à la reconnaissance faciale en pleine rue et en temps réel ? Via un outil installé sur leur téléphone de service appelé Neo pour nouvel équipement opérationnel. Selon Disclose, Neo leur donnerait accès à un outil de reconnaissance faciale relié à un immense fichier de la police, le TAJ, fichier d'antécédents judiciaires permettant d'obtenir les informations personnelles sur plus d'un quart de la population française grâce à une photo prise sur le vif. Alors, cette enquête de Disclose révèle que la police française utilise bien le fichier TAJ, fichier d'antécédents judiciaires lors de contrôle d'identité dans l'espace public. Mais ça, c'est carrément interdit, car ce fichier est pourtant strictement encadré et limité aux enquêtes judiciaires. En aucun cas, lors de contrôle d'identité, ce fichier ne doit être consulté que par des agents spécialement habilités. Ce fichier TAJ, j'ai appris ça aussi en lisant cet article, il est tentaculaire. Selon Disclose, il contiendrait environ 17 millions de fiches sur des personnes mises en cause dans des enquêtes, mais aussi sur 48 millions de victimes. Et chaque fiche donne des données personnelles, parfois sensibles, nom, date de naissance, profession, appartenance politique ou religieuse. De plus, le TAJ contient jusqu'à 9 millions de portraits de face, précise Disclose, d'après un document du secrétariat général du ministère de l'Intérieur obtenu par ses équipes. Alors, vous pensez que la reconnaissance faciale pouvait être utilisée dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité ? C'est totalement illégal. La direction de la police nationale l'a formellement interdit. Disclose a pu consulter des documents du ministère de l'Intérieur et les règles d'utilisation de ce fichier TAJ sont très claires. Toute utilisation frauduleuse entraîne la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l'agent. Mais depuis que ces fichiers sont consultables depuis les téléphones de service des policiers et non seulement dans leur bureau, la police a pris l'habitude, aurait pris, on va dire, puisque c'est une enquête, l'habitude de consulter les fichiers lors des contrôles d'identité et d'activer l'option de la reconnaissance faciale. Ces pratiques sont interdites en France. Alors, avec Disclose et la Quadrature du Cercle, une ONG qui surveille tout ce qui se passe sur Internet, la Quadrature du Cercle a publié un guide sur la reconnaissance faciale et les contrôles d'identité, ce manuel étant l'accès libre. Donc, il suffit d'aller chercher cet article qui est sur le site d'Amnesty, de cliquer, là, je ne peux pas le faire à la radio, pour avoir ce petit manuel et qui vous permettra de vous défendre face aux abus de la reconnaissance faciale. Et la Quadrature du Cercle expose les trois raisons qui rendent l'utilisation de la reconnaissance faciale via le fichier TAJ illégal. Premièrement, prendre une photo lors d'un contrôle d'identité est strictement encadré. Consulter le TAJ, c'est un fichier réservé aux enquêtes judiciaires. Identifié par reconnaissance faciale, c'est un usage sans base légale. La solution, c'est absolument interdire la reconnaissance faciale, car c'est une menace pour notre vie privée, surveillance généralisée, erreur d'identification. Vous savez, pensez à ce que tu disais sur l'intelligence artificielle qui n'était pas mise à jour. Hein, oui. Ça, on ne sait pas du tout comment c'est géré.
C'est ça.
Discrimination accentuée. Bah là, c'est Ahmed qui a été pris par un contrôle. Hein, ce n'est pas Virginie ou Jean-Baptiste. Hein, voilà.
C'est bizarre.
Une fois de plus. Donc, la reconnaissance faciale porte atteinte à nos libertés fondamentales. Alors, écoutez bien la suite. Entre les mains de régimes autoritaires, la reconnaissance faciale peut devenir une arme d'une extrême dangerosité pour les droits humains. Donc on sait très bien que les autorités françaises sont tout à fait intéressées par ces techniques de surveillance. On avait déjà fait des mouvements d'opposition par rapport à la vidéosurveillance algorithmique des Jeux Olympiques. Il suffisait qu'on marche doucement ou qu'on marche vite et on allait être dans les filets de cette vidéosurveillance. Mais là, il faut aussi se défendre de cette façon très facile maintenant de la police de rentrer dans ces fichiers qui ne correspondent pas à des simplement des contrôles d'identité dans la rue. Voilà.
Alors juste pour préciser les choses, je te dis tout à l'heure la quadrature du cercle.
Du net. Oui, t'as raison. Oui, c'était mignon le cercle. Je connais bien cette ONG.
L'association qui lutte avec Amnesty pour la défense de nos droits dans l'univers numérique et les abus de tout ça.
Oui, voilà. Et juste, parce que tu me fais revenir là.
Parce que sur le TAJ, si par exemple vous faites une petite infraction routière, mais très légère, ça. Tout est inscrit, en fait. Et vous avez le droit de demander d'effacer quand c'est pas pénal. Ouais. Donc, du coup, il y a des choses qui peuvent être... Non, puis même quand vous avez payé les amendes ou les choses comme ça et tout, vous avez le droit de demander l'effacement, en fait. Ouais.
Et juste dire par rapport à ce qu'on peut dire, parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Donc la quadrature du net précise, la photographie du visage lors d'un contrôle dans la rue est faite en violation des règles de la vérification d'identité, c'est-à-dire sans prévenir le procureur, sans PV, et en dehors de cette procédure de vérification d'identité, la prise de photo du visage est interdite. De plus, une circulaire interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale lors du contrôle, c'est ce que je l'avais déjà dit. Mais savoir qu'il y a des termes très précis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous photographier comme ça, simplement parce que c'est un policier et vous, une personne lambda.
Même si on porte un badge police. Voilà.
Un
peu de musique, effectivement, et on se retrouve juste après.
On va s'en sortir. Un jour. Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller. Ils vont reprendre leur droit et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les bailleurs, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la pagne de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir de yachts et d'acheter de la coque aux arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse sorcière, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds, où ce qu'on y plonge des petits africains de 7 ans, qui au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone à 1000 boules. Putain, et on va s'en sortir. On va consommer que l'énergie dont on aura besoin et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des tonnes de plastique, des abris pour ceux qui en ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins de rue, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. S'en sortir. Oui, moi aussi j'avoue j'ai un petit peu des doutes parfois quand je regarde ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueule.